Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je ne veux pas vous laisser en cette grande fête sans vous donner un sermon, bien que, hélas, certains, beaucoup même d'entre vous, ne pourront peut-être pas l'écouter en temps utile. Mais cette fête est tellement grande, c'est une fête de plus de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faudrait pas limiter la royauté à la fête du dernier dimanche d'octobre, où nous proclamons la royauté sociale de Jésus-Christ. C'est peut-être à cause de la faiblesse de la foi que Pie XI a jugé nécessaire d'instituer une fête particulière. Mais il faut nous rappeler que toutes les fêtes de notre Seigneur sont des fêtes de sa royauté. Notre Seigneur est roi tout le temps. Il est roi dans toute sa vie et toute sa vie établit sa royauté sur le monde et sur nos âmes. Aujourd'hui, notre Seigneur, c'est la fête d'aujourd'hui, on pourrait dire qu'elle est la fête de la royauté, de l'amour de Jésus pour nous. Il le marque par cette scène touchante et étonnante du lavement des pieds. Et il y a évidemment une volonté déterminée de notre Seigneur de laver les pieds de ses apôtres précisément en ce jour-ci, à la veille de sa mort. On pourrait dire que cela fait partie de son testament. Et Saint Jean l'a bien remarqué, puisqu'il dit, comme il a aimé les siens, il les aima jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au bout, totalement. Alors, cet amour de notre Seigneur est plein de délicatesse. Et il va transmettre à ses apôtres le commandement de faire de même, c'est-à-dire d'avoir le même amour que lui et de continuer son propre amour. Alors, prenons les choses dans l'ordre, si vous le voulez bien, mes bien chers frères. Cet amour de Jésus-Christ est évidemment d'abord un amour de son Père. Bienheureuse faute qui, la faute d'Adam, qui non seulement nous a valu un tel rédempteur, mais qui a permis à l'homme Dieu de manifester d'exercer un amour si beau, si plein, si divin de son Père parmi les hommes. Voici que un homme, le premier d'entre nous tous, le premier-né d'entre les morts, Jésus, le premier-né, aime son Père comme jamais aucun homme ne l'a aimé. Il en donne la preuve lorsque sa nature voudrait le pousser à refuser le calice d'amertume que Dieu le Père lui présente, toute sa volonté humaine, parce que la volonté divine, nous la connaissons déjà, toute sa volonté repousse cette demande de la nature, et elle la repousse par ses paroles, non pas ma volonté, Père, mais que la vôtre se fasse. Alors, ce terme « volonté » peut nous paraître un peu froid, un peu dur peut-être même. Et pourtant, la volonté, c'est le bien, c'est l'amour. Lorsque notre Seigneur proclame à son Père qu'il veut accomplir sa volonté par-dessus toute chose, il proclame, en termes équivalents, qu'il l'aime par-dessus toute chose. Et cet amour est tellement plein qu'il veut se communiquer, ou qu'il veut le communiquer. Il veut communiquer aux hommes l'amour que Dieu le Père a pour eux, cet amour par lequel il les a créés, il les a élevés à la grâce, et il a voulu ne pas les abandonner après le péché en leur promettant le Rédempteur dès même la chute de nos premiers parents. Et maintenant, notre Seigneur accomplit la volonté de son Père, c'est-à-dire que, vivant pleinement dans l'amour de son Père, il transmet cet amour. Il le transmet par son sacrifice, le sacrifice de la croix, dans lequel il se livre tout entier, et il a voulu que nous puissions entrer pleinement dans cet amour, ce pourquoi il a institué la messe. La messe, le grand sacrement, car c'est la messe qui est un sacrement, et pas seulement la communion. La communion est la participation au sacrement. Je vous l'ai déjà expliqué, c'est important, je n'y reviens pas. La messe qui est le sacrement de son amour. Vous me direz peut-être que je remue le fer dans la plaie, puisque vous tous qui m'écoutez, vous n'avez pas la messe aujourd'hui, alors que vous l'auriez tant désiré. Au contraire, je mets du baume sur la plaie, car la messe dépasse infiniment notre communion. C'est pour toute l'Église que les messes sont célébrées. C'est pour toute l'Église, c'est à toute l'Église que Jésus a donné la messe. Et de même que nous profitons du sacrifice du calvaire par la foi, par l'amour, de même, nous profitons de la messe par la foi et par l'amour. Loin de moi, bien sûr, de diminuer la valeur de la communion. Au contraire, si l'on se rend compte de la valeur de la communion, alors on pourrait dire qu'une seule communion suffit et suffira à nous mettre perpétuellement en union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le sacrement de l'amour de Jésus va se prolonger. Non seulement notre Seigneur nous aime, mais il veut que cet amour soit communiqué, ce pourquoi il institue le sacerdoce. En instituant les prêtres, notre Seigneur leur donne un commandement de continuer ce que lui-même vient d'opérer, de continuer de la même manière, avec la même délicatesse, mais surtout avec le même amour de Dieu et le même amour des hommes, qui se puise dans l'amour du cœur de Jésus. Le prêtre, en offrant le sacrifice, a une intention, un amour qui doivent être à la mesure de l'amour de Jésus. Il y a l'amour personnel du prêtre qui, hélas, n'atteindra jamais celui de Jésus-Christ, mais il y a l'amour qui tient de sa fonction. L'acte que le prêtre offre est un acte divin, puisque il parle en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, puisque le prêtre dit « Ceci est mon corps » et non pas « Ceci est le corps de Jésus ». C'est bien dans la réalisation de son ministère, l'amour même de Jésus qui descend et qui atteint tous les hommes. Qui atteint tous les hommes qui veulent bien se laisser atteindre. Et c'est pourquoi Saint Paul dans l'Épître nous a avertis. L'avertissement est sévère. On sent qu'il se fâche contre ces chrétiens qui, au lieu de profiter de la messe pour faire régner l'amour de Jésus, se servent de la messe pour dans un amour propre. Si nous ne méritons pas le même reproche, sachant que nous pourrions hélas le mériter, car il n'y a rien dont l'homme soit capable s'il lui manque la grâce de celui qui a fait l'homme. C'est Saint Augustin qui parle. Et si nous sommes fidèles à Jésus-Christ, si nous avons cette grâce d'être fidèles à Jésus-Christ, nous la lui devons à lui et à lui seul en définitive. Mais si nous écoutons attentivement l'avertissement de Saint Paul, nous voyons que lui aussi nous demande une grande délicatesse, c'est-à-dire une grande révérence, un grand respect du sacrement de l'autel. Il est évident que cet amour que Jésus nous communique se communique à nous tel qu'il est, c'est-à-dire avec tout son caractère communicatif. Notre Seigneur nous communique l'amour qu'il a pour son Père, et cet amour consiste aussi en ce que son Père soit aimé. Celui qui aime son ami veut que son ami soit aimé de ses amis. Jésus qui aime Dieu veut que Dieu soit aimé de ceux que dont il veut faire ses amis, ceux qu'il a choisis pour amis. C'est tous les hommes à l'origine, même si hélas tous les hommes n'y répondront pas, et si Dieu sera obligé de rejeter au nom de l'amitié ceux qui auront refusé cette amitié. Mais notre Seigneur nous communique un amour d'amis. Et cet amour d'amis cherche à son tour à se communiquer. D'où l'importance des œuvres de miséricorde dont notre Seigneur nous montre l'exemple avec le lavement des pieds. Des œuvres de miséricorde, il a voulu que cet exemple soit le plus simple possible, le plus parlant possible. Et c'est pourquoi il a exercé une œuvre de miséricorde corporelle, la plus simple, la plus humble de toutes, puisqu'il lave les pieds. Certes, il a déjà largement exercé la miséricorde spirituelle en enseignant la vérité de son Père, en corrigeant les pécheurs, en donnant de bons conseils, en pardonnant aux pécheurs, en supportant les injustices, en priant pour tous et particulièrement pour ses amis, ses ennemis, pas seulement ses amis. Ce sont les œuvres de miséricorde spirituelle. Mais il a voulu que la leçon soit plus forte encore, et c'est pourquoi il la concrétise dans cette œuvre de miséricorde corporelle si humble et si parlante. Il est évident que nous ne pourrions pas avoir l'amour de Jésus-Christ si nous n'avions pas la volonté d'exercer à notre tour les œuvres de miséricorde. Il est souhaitable que nous puissions les exercer réellement, effectivement. Ce n'est évidemment pas toujours possible. Et il arrive des situations, un âge surtout, où les œuvres de miséricorde sont exercées en désir. Il reste cependant que l'œuvre de miséricorde de la prière pour les pécheurs, telle que l'a demandé la Très Sainte Vierge à Fatima, est toujours possible. Et cette œuvre, qui est spirituelle, donc qui a plus de valeur que les œuvres corporelles, est une œuvre qui met directement Dieu en œuvre, qui fait directement intervenir Dieu. Les autres le font déjà intervenir, puisque la vérité de la révélation que nous prêchons, c'est en réalité la sienne que nous ne faisons que transmettre. Mais par la prière, nous faisons intervenir l'amour de Dieu le Père et de Dieu le Fils et du Saint-Esprit, bien sûr. Nous faisons intervenir cet amour et nous disons à Dieu, « Dieu qui vous êtes donné aux hommes et qui avait voulu que les hommes vous donnent à leur tour, nous savons que vous avez promis d'exaucer votre prière, notre prière, et nous vous supplions, comme la Sainte Vierge nous l'a demandé, nous vous supplions pour les pauvres pécheurs. » Je pourrais dire que Dieu est obligé de céder. Il serait plus juste de dire que Dieu s'est obligé à céder. Cette prière, notre Seigneur a promis que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est évident que tous ceux d'entre vous qui m'écoutez et qui êtes réunis en ce moment pour vous unir à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur est véritablement au milieu de vous. non pas substantiellement peut-être par son corps et son âme, mais réellement par sa présence, par réellement, spirituellement, par sa présence mystérieuse mais réelle. Voici, mes bien chers frères, comment notre Seigneur règne. Comment nous étendons son règne. Et cela doit beaucoup nous encourager en cette période si triste, où nous pourrions être désemparés et nous dire, mais que pourrions-nous faire? Tant et tant de gens s'agitent en se demandant ce qu'ils pourraient bien faire. Tant sont tentés d'agir à travers les élections, alors que nous avons ici le moyen le plus simple, le plus vrai et le plus infaillible d'étendre le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Je terminerai par cette prière de la Sainte Vierge à Fatima que j'aimerais que vous connaissiez par cœur. Ô mon Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs, en réparation des péchés contre le cœur immaculé de Marie. Que Dieu vous bénisse, mes bien chers frères. Tout à l'heure, je vais célébrer la messe et vous serez particulièrement présents sur la patène. Je vous offrirai avec notre Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.